Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Mon être est brisé, je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être est brisé.
C'est une réelle joie de pouvoir partager l'excellente parole de la grâce de Dieu avec chacun d'entre vous. Sur cette série de la loi de la foi, nous remercions le Seigneur, car la loi de la foi est celle qui permet aux chrétiens d'avoir un contact réel avec Dieu. La Bible dit que le juste vit selon sa foi. Le juste vit par sa foi. Le juste marche par sa foi. Qu'est-ce que le juste? Le juste, dans nos langues nationales, c'est un mot incorrect. Le juste, dans nos langues nationales, c'est quelqu'un qui pratique des bonnes choses. Non! La justice divine n'est pas un jugement, c'est pas un tribunal. On appelle ça le jugement. Mais la justice divine, c'est la nature de Dieu qu'il communique à quiconque est né de nouveau. Et être justifié veut dire quoi? Quelqu'un qui est justifié, c'est quelqu'un qui peut rester, se tenir dans la présence de Dieu, sans culpabilité, sans complexe d'infériorité, sans peur et trouble dans son cœur. Parce que sa nature répond à celle de Dieu, comme Adam avant la chute. Adam était juste, non pas à cause de ses actes, il était juste parce que Dieu avait mis en lui sa nature. Il était participant de la nature divine. À cause de cela, Adam n'avait jamais fui la présence de Dieu. Adam prenait plaisir à la présence de Dieu. Adam marchait dans la présence de Dieu. C'est la même chose que Christ est venu pour restaurer à la création, surtout à l'être humain qui a été déchu à cause de la chute d'Adam et d'Ève. Alors, puisque nous avons compris maintenant qu'est-ce que veut dire le juste, c'est celui qui est né de nouveau. C'est celui qui a reçu une nouvelle vie. C'est celui qui a le Saint-Esprit en lui. Il est régénéré par le Saint-Esprit, engendré par la semence incorruptible de Dieu. Alors, bien-aimés frères et sœurs, puisque le juste vit par la foi, et d'où lui est venue cette foi? Nous l'avons déjà dit et nous le répétons dans Romains 12, verset 3. La Bible dit que Dieu donne la mesure de foi, la même mesure de foi à chacun. Dieu départit, il donne à chacun la même mesure de foi. Alors, dès le moment où vous avez cru en Christ et que vous avez reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, parce que vous avez entendu la parole glorieuse de Dieu sur l'œuvre achevée de Christ, alors, Dieu vous fait grâce du don, de la foi. De la foi. Romains 12, 3. Et il est dit dans Jude 1, verset 3, que cette foi a été donnée au juste une fois pour toutes. Vous entendez? Donc, le juste, maintenant, puisqu'il a reçu une mesure de foi, la nouvelle création ou le juste, ce sont les synonymes. Alors, commence à vivre et marcher par cette foi qu'il a reçue de Dieu. Mais comment va-t-il? Qu'est-ce que veut dire marcher, vivre selon sa foi? Ce n'est pas vivre selon sa religion. Non. Vivre selon la foi qui nous a été donnée veut dire que désormais, ma foi est réagie à la parole de Dieu. Ce que Romains 10, verset 17 dit. Cela veut dire simplement que cette foi qui est en moi va réagir, va grandir, va croître, lorsque j'entends ou je médite la parole de Dieu, j'accepte cette parole et j'obéis à cette parole. Ce ne sont pas les auditeurs dont, qui ont la foi qui grandit. Ce sont ceux qui ne sont pas des auditeurs oublieux. Ceux qui vont à l'église, qui écoutent et ne mettent pas en pratique, leur foi ne grandit jamais. Donc, la foi grandit lorsque j'entends la parole ou je la médite personnellement et que j'accepte cela comme la parole vivante de Dieu et que je me soumets à cette parole en y obéissant. En ce moment-là, quelque chose se passe. Le Saint-Esprit, qui est l'esprit de foi, commence à manifester dans ma vie la loi de la foi. Le juste, lui, il vit par sa foi. Mais l'homme naturel, c'est de l'homme qui n'est pas né de nouveau. L'homme qui n'est pas justifié par la résurrection de Jésus-Christ. Par quoi lui vit-il? L'homme naturel, bien qu'il soit parfois très intellectuel et religieux, l'homme naturel vit et marche selon sa vue, son odorat, son ouïe, son goûter ou son toucher. Cela veut dire qu'il vit selon ses cinq sens. C'est un homme sensoriel. C'est un homme émotif. Non seulement il vit par les cinq sens, mais dans son âme est soumise aux cinq sens. C'est un homme sensoriel qui vit par simplement les cinq sens. S'il ne voit pas, il ne croit pas. S'il ne touche pas, il dit si je ne touche pas comme Thomas, si je ne touche pas, en tout cas ses mains percées, son côté percé, si je n'y mets pas mon doigt, moi, je ne peux pas croire ce que je ne vois pas, ce que je ne touche pas. Et malheureusement, beaucoup de croyants, enfants de Dieu, sont à ce niveau de bébé spirituel. Ils marchent et vivent selon leur simple croyance. Nous avons dit que la croyance et la foi se complètent mais sont différents. Je crois dans mon cœur que Dieu existe. Je crois que Dieu guérit les gens. Je crois que Dieu est amour. Mais pourtant, quand je regarde ma vie, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de puissance. Parce que la croyance seulement ne suffit pas. C'est pourquoi le monde est rempli de croyants, mais qui ne manifestent pas la vie de Christ. Et partout, vous voyez des croyants. Si vous dites qu'ils ne sont pas croyants, ils se fâcheront contre vous. Mais ils sont simplement croyants dans leur cœur, mais leurs actes contredisent ce qu'ils croient dans le cœur. Si nous croyons notre cœur, nos actes doivent prouver que ce qu'on croit en nous est réel. Alors, bien-aimés frères et sœurs, la foi, c'est croire plus agir. La foi, c'est croire dans mon cœur, mais aussi agir, faire une démonstration par un acte ou une parole claire. Donc, bien-aimés frères et sœurs, le juste vit par sa foi, et l'homme naturel vit selon ses cinq sens et selon son intellect, qui est soumis simplement à ses cinq sens. Alors, c'est pourquoi l'homme naturel, parfois, vous êtes étonné de le voir poser certains actes, vous dire, mais comment un si grand homme, un si grand intellectuel a pu agir ainsi? Parce que il marche selon ses cinq sens. Maintenant, que nous savons que la foi réagit toujours à la parole de Dieu. La foi ne réagit pas à mes sensations, à mes émotions. Non. La foi est comme un aimant et un morceau de fer. Et l'aimant, c'est la parole. Et la foi, c'est le morceau de fer. Si vous mettez un aimant devant un morceau de fer, quand vous bougez l'aimant, vous voyez le morceau de fer bouger. Il en est ainsi de la foi et de la parole. La foi réagit toujours lorsque la parole de Dieu est reçue ou méditée dans son cœur et on commence à y obéir. La foi, c'est aussi, n'oubliez pas, si le corps a cinq sens, nous avons vu, et notre âme a des sens aussi, la volonté, les sentiments, les émotions, l'intellect, etc. Notre esprit qui est régénéré a un seul sens qu'on appelle la foi. Donc, la foi, c'est la réponse de mon esprit à la parole de Dieu. Je répète, la foi, c'est la réponse de mon esprit à la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est prêchée, mon oreille physique entend, mes oreilles physiques entendent, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que mon esprit aussi a des oreilles. Il faut que mon esprit entende et accepte et commence à marcher selon cette parole. C'est en ce moment que des choses se passent dans ma vie. Auditeurs et auditrices de l'heure de la vérité. Regardez maintenant pourquoi nous insistons sur la loi de la foi, ce principe spirituel très important. Parce que dans Hébreux 11, verset 6, la Bible est claire. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'attirer l'attention de Dieu. Vous entendez? Ah! Si, sans la foi, il est impossible que je plaise à Dieu, c'est que Dieu m'a donné la foi et qu'il s'attend à ce que j'utilise cette foi. Dieu ne peut pas me demander que sans un avion, moi, je ne peux pas aller à Paris. Et il me dit, il faut que tu viennes à Paris. Et il ne me donne pas le moyen pour aller à Paris, ce serait un Dieu méchant. Quand Dieu dit, sans la foi, il est impossible de me plaire, cela veut dire, on l'a déjà vu, Romains 12, 3, qu'il a donné, il vous a donné à votre nouvelle naissance une mesure de foi, la même mesure de foi, et elle a été donnée une fois pour toutes aux saints. On l'a vu dans Jude 1, verset 3. Et cette foi que vous avez, elle est devenue maintenant votre foi. C'est un don qui est en vous. C'est un sens, le sens de votre esprit. Et comme Dieu est esprit, vous ne pouvez pas toucher Dieu avec vos oreilles, avec votre main. Vous ne pouvez pas sentir l'odeur de Dieu. Vous ne pouvez pas goûter Dieu. Mais avec votre foi, vous pouvez maintenant toucher Dieu spirituellement, le sentir spirituellement, le goûter spirituellement. C'est cela, c'est ça que la foi produit dans les chrétiens. Quand la parole de Dieu est entendue, quand elle est reçue, quand elle est acceptée, et on veut y obéir, la foi commence à toucher Dieu. Puisque la foi étant un sens de mon esprit, et que Dieu est esprit, alors le moyen pour que l'esprit touche l'esprit, c'est la foi. Le moyen pour que le billet de 5000 francs que vous me tendez par votre main, le moyen de prendre ce billet de 5000 francs, c'est par ma main. Parce que dans le corps, c'est le bras qui est utilisé pour prendre possession des choses qu'on me donne. Le bras est la foi naturelle du corps. Mais dans l'esprit, j'ai mon esprit. Dieu est esprit. Et Dieu donne la parole. C'est mon esprit qui doit recevoir la parole. Et en ce moment, ce que Dieu donne par le Saint-Esprit, mon esprit le reçoit, et la foi qui est mon bras spirituel là, prend possession des promesses, la parole de Dieu, et je demeure sur cette parole là. Et alors, des miracles, des signes, des prodiges, comment ça se passe dans ma vie? Pas dans l'église d'abord, dans ma vie personnelle. Je commence à goûter aux bontés de Dieu. Je commence à goûter à la miséricorde, à la grâce de Dieu. Je commence à voir dans ma vie des signes au niveau spirituel, au niveau physique de guérison, au niveau financier. C'est par là que vous pouvez savoir que Dieu est réel. Oui, oui, je crois que Dieu est réel. Mais comment tu le sais? Comment tu le sais? Les démons, ils croient comme ça? Mais c'est dans les choses pratiques, dans les choses réelles de chaque jour, on sait que Dieu est réel. Comment peux-tu dire à quelqu'un que ton Dieu est réel? Il te dit, mais donne-moi la preuve. Tu dis oui, viens dans la Bible, voilà, c'est écrit. Mais il va te dire, ça c'est un livre ça. Mais quand dans ta vie, tu as un problème, ton entourage sait que tu as tel problème, et ils savent que tu ne peux pas t'en sortir, et tu pries ton Dieu, tu leur dis, mon Dieu pourvoira mes besoins, et qu'effectivement il pourvoit là, là les gens commencent à dire, ah, son Dieu est réel. Bien qu'on ne le voit pas avec nos yeux, mais il est réel. C'est ça que le monde veut voir. Le monde ne veut pas voir des alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Non, le monde veut voir. Le monde veut voir qu'est-ce que votre Dieu est capable de faire et qu'est-ce qu'il fait dans votre vie tous les jours. Le monde a les mêmes problèmes que nous. Le monde court chez des gens, des charlatans, des gens qui prennent leur argent. Nous, on n'a pas besoin de courir. Nous avons un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne bouge pas. Il n'y a aucune ombre de variation en lui. Il est le même. Il est constant dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa puissance, dans sa sainteté, dans aussi dans sa bonté. Alors, c'est pourquoi il nous demande, il dit, mes enfants, je vous ai donné la foi. Vous et moi, pour que nous puissions marcher ensemble, il faut exercer cette foi. Pas la croyance, hein, je vous ai dit de croire, c'est très bien, c'est le cœur. Mais la foi est une démonstration. Tu aimes cette femme, cette fille, dans ton cœur, c'est bien. Mais la démonstration, c'est que tu marches un jour pour aller chez elle, pour lui dire face à face, mademoiselle, je vous aime, et je voudrais faire de vous mon épouse. Ça, c'est la foi. Sinon, vous pouvez l'aimer jusqu'à ce que quelqu'un vienne la prendre sous votre nez et l'épouser. Et vous direz que vous avez la foi, c'est faux. Si vous avez la foi, il fallait aller faire la déclaration, marcher. Soyez courageux. La foi demande le courage. Car c'est bon de croire dans le cœur, mais la foi est une démonstration. Hébreux 11:1 vous le dit. C'est une ferme assurance, ça c'est la partie croire, et la partie et foi même maintenant, une démonstration. La foi est un titre de propriété. Un titre de propriété, un titre foncier. Vous avez mis en valeur un terrain de 50 millions. Vous allez à la banque. Il dit, mais il nous faut une garantie. Avez-vous investi dans le domaine immobilier? Vous dites, oui. Bon, levez-vous, on va aller voir. Non, on n'a pas besoin, monsieur. Si vous avez un titre foncier, un titre de propriété en bonne et due forme, ça nous suffit largement. Vous sortez les documents. Le banquier, avec ce document, sachant que le document est valable, et ça vaut 75 millions, il va vous donner le crédit de 50 millions, parce qu'il sait qu'il va récupérer son argent. La foi, c'est comme cela. La foi vous permet de montrer aux gens les choses qui sont invisibles, mais pour vous, elles sont réelles. Celui qui a le titre foncier, là, le banquier ne connaît pas la couleur de sa maison. Le banquier ne connaît pas où se situe sa maison, dans quel quartier. Mais lui, il est assis devant le banquier, en même temps dans sa pensée, il voit toute sa maison. Il voit la couleur des murs, il voit le premier étage, le deuxième étage, il voit tout ce que... Ça, c'est... Vous voyez? C'est la démonstration des choses invisibles. La chose est invisible au banquier, mais celui qui est assis là, il sait que la chose est réelle. Donc la foi, c'est comme cela. Tu sais que tu es guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Tu es guéri. Mais celui qui est devant toi là, il dit, mais... Je ne vois pas, ton corps est chaud encore. Regarde, ta fièvre n'a pas baissé. On a pris, il prend un thermomètre, tu es toujours à 45. Hein? Mais toi, tu dis, moi, je vois ma guérison en Jésus-Christ. Par l'œuvre achevée de Christ, je vois Christ ayant pris mes péchés, je suis pardonné, donc je suis sauvé. Mais aussi, je vois qu'il a pris mes maladies, il s'est chargé de toutes mes infirmités. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Je vois la guérison. Les gens peuvent dire, mais tu es un illuminé. Oui, ils ont raison. Parce qu'ils ne voient pas. Et ils marquent selon leurs cinq sens. Et toi, tu marches selon la foi. Qui est le sens, l'unique sens de notre esprit. Pas du Saint-Esprit, hein, de notre esprit. Auditeur et auditrice de l'heure de la vérité. Il est important que nous comprenions ces choses-là. Dieu est le Dieu de foi. Et chaque fois, Dieu réagit positivement partout où la foi est manifestée par un homme ou une femme. Je le répète encore. Dieu est le Dieu de foi. Je ne parle pas de foi religieuse. Je ne parle pas de foi de religion. Foi de religion, ça ne marche pas. C'est une simple croyance. Croyance en Dieu. Et les démons croient en Dieu. Dieu est le Dieu de foi. Et il réagit positivement chaque fois qu'il voit un homme, une femme, analphabète, riche ou pauvre, blanc ou noir, qui manifeste cette foi à son égard, à l'égard de sa parole. Dieu est tellement content que Dieu dit, voici quelqu'un. Dieu cherche des gens de cette sorte-là parmi les croyants chrétiens. Il ne cherche pas ceux qui partent balayer les églises, ceux qui sont là en train de prier matin, midi, soir. Ils prient, mais sans foi. Ils ne se lèvent pas pour exercer leur foi. C'est ça qui est dommage. Il y a beaucoup d'intercesseurs, mais peu d'intercesseurs de la foi. C'est différent. Il y a beaucoup d'intercesseuses, mais peu d'intercesseurs de la foi. Car la foi reçoit. La foi reçoit l'objet de sa demande. Car la foi, c'est demander et vous recevrez. Frapper et l'on vous ouvrira. La foi prend possession de ce qu'elle a demandé. Allons dans Luc 5 pour voir si Jésus, si on peut voir la foi. Est-ce que Jésus, pour que Dieu soit content, c'est qu'il voit, il doit voir votre foi. Est-ce que la foi peut être rendue visible? Est-ce que ma foi peut être rendue visible? Allons dans Luc 5, verset 17, et ensuite dans Marc 2, verset 1 à 5. Luc 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralysé, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et ils le descendirent par une ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Ah. Voyant leur foi. Donc, la foi se voit. La foi est visible. La foi, chacun de nous, moi j'ai une foi privée. Il n'y a pas de foi privée. Non. Ça, c'est dans le domaine des affaires. Propriété privée. Ça, c'est dans le domaine. On va privatiser telle chose. Non, on ne peut pas privatiser la foi. C'est quand Dieu vous l'a donné qu'elle vous appartient. Mais maintenant, sa manifestation est toujours publique. Elle est extérieure, elle est publique. Les gens doivent voir. Vous dites que vous croyez en Christ. Vous dites que vous avez la foi. Regardez comment vous êtes sale. Avec des guenilles. Ça, c'est quoi? Et vous dites que ça c'est l'humilité. Vous dites que vous avez la foi. Regardez la souffrance dans laquelle vous vivez en permanence. Vous dites que vous avez la foi. Mais regardez votre vie et vous allez voir. Est-ce que c'est une vie de foi? Regardez chaque domaine de votre vie. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas... Il y a la croyance, mais pas la foi. Vous voyez ici? Jésus était en train de prêcher à Capernaum. Il logeait chaque fois chez Saint-Pierre. Saint-Pierre était son logeur à Capernaum. Et il était à la maison et les docteurs de la loi, les pharisiens sont venus. Alors, ils n'aiment pas Jésus, en même temps ils sont attirés par Jésus, c'est ça. Chaque fois que Dieu vous manifeste un don, vous devenez une contradiction publique. Chaque fois que Dieu vous donne un don, vous devenez une contradiction publique. Vous attirez et en même temps, vous rejetez les gens. Pas que vous les rejetez activement, c'est que vous êtes rejeté par les gens. Les gens vous admirent, en même temps ils vous rejettent. C'est ça la contradiction de ceux qui ont des dons. Si vous avez un don, vous savez cela. Vous avez beaucoup de gens qui regardent, qui vous suivent, qui vous félicitent. En même temps, ils vous rejettent. Quand on parle bien de vous publiquement, ils sont les premiers à donner vos défauts cachés. Mais quand ils sont devant vous, ils vont vous applaudir. Ils vont dire, ah oui, cet homme-là, cette femme-là est bien. C'est ça aussi. Les gens ont dit dans les synagogues que quiconque va croire que Jésus est le Messie sera excommunié. Et en même temps, les docteurs et les pharisiens, les chefs religieux, viennent s'asseoir pour écouter les enseignements de Jésus. C'est quoi, quelle contradiction. Ils sont attirés, en même temps, ils sont attirés, vous voyez là. Il y a quelque chose dans leur cœur qui dit, ce jeune homme-là, ce qu'il dit est vrai. Bien qu'il n'ait pas été dans une école biblique, bien qu'il n'a pas été à l'école de Nicodème, ni à l'école biblique de Anne, de Caïphe, mais quand même, ce qu'il dit là, c'est extraordinaire. C'est cela. C'est cela la vie de la foi. Ce n'est pas une formation biblique ou théorique, non. C'est une réalité. La réalité spirituelle est plus réelle que la réalité physique. Car tout ce qui est physique vient de l'invisible. Les gens ne savent pas ça. Dieu est esprit, il est invisible. Tout ce qui a été créé vient de lui. Donc, le spirituel, l'invisible est plus réel. Et le physique et le visible. Donc, c'est pourquoi moi, je me base sur le spirituel, sur le physique, et non pas sur la religion. La religion, c'est une manifestation des rites et des règles que les gens là, pour montrer aux gens. Non! Jésus dit, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent, doivent l'adorer en esprit et en vérité. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont inspirées par le Saint-Esprit et apportent la vie à ceux qui la reçoivent. Alors, regardez ici. Il enseignait et la puissance de Dieu se manifestait et les docteurs et les pharisiens étaient là. Et brusquement, on voit quelque chose, une image. On dit, des gens ont apporté un paralytique. Ils sont montés sur le toit. Ils ont enlevé le toit parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Et ils ont envoyé, et il dit, Jésus, voyant leur foi, a vu la foi de ces gens-là. Mais dans Marc, ce sera plus précis, ces gens-là sont quatre. Dans Marc 2, si vous avez vos Bibles, on va ouvrir dans Marc 2, et là, on va voir que ces gens-là sont quatre personnes. Marc 2, verset 3, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Voilà. Maintenant, je complète. Vous avez Luc 5, 17 et Marc 3. Donc, ici, ce que je vais retenir pour vous, c'est que dans Luc, il est dit des gens. Dans Marc, c'est bien précis, quatre hommes. Alors, cela veut dire quoi? On va voir que la foi ne marche pas toute seule. Pourquoi souvent, ce qu'on nous apprend, la foi, là, ça ne marche pas? Parce que la foi ne marche jamais seule. Quand vous voyez la foi, vous verrez à ses côtés, ses neveux, ses cousins. La foi à ses neveux, à ses nièces, à ses cousins, vous les voyez à côté. Si vous ne voyez pas les neveux, les cousins de la foi, ça veut dire que ce n'est pas une vraie foi. Ça doit être une croyance. Alors, comment vous dites, ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire ce que ça veut dire, mon ami. Allons dans Galates 5, verset 6. Galates 5, verset 6. Tu vas comprendre que tu vas voir là-bas les deux cousins déjà, les deux cousins ou les deux nièces de la foi. Galates 5, verset 6. La Bible dit ceci. Il dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais ce qui a la valeur, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Alors, il y a trois choses ici. La foi, le mot agissante et le mot amour. Donc, il y a trois. La foi agit toujours par l'amour. Écrivez ça dans votre cahier. La foi agit toujours par l'amour, au travers de l'amour. Ah! Donc, on voit déjà les deux parents de la foi ici. Alors, si on retourne dans Marc, chapitre 2, verset 3, on dit que des gens vinrent à Jésus amenant un paralytique porté par quatre hommes. On va voir donc les quatre hommes là qui vont en réalité accompagné la foi pour que ce paralytique-là se lève et marche. Nous avons déjà lu, souvenez-vous toujours que la foi agit par l'amour. Donc, les quatre hommes sont qui? On a vu le premier homme qui a vu ce paralytique-là. Il a écouté le message de Jésus. Quand il a écouté le message de Jésus, et il a vu la puissance, comme on l'a dit dans Luc 5, la puissance de Dieu guérir les gens, il a pensé à ce paralytique du quartier. Cet homme qui est paralytique dans le quartier et qui souffre beaucoup. Et cet homme-là s'appelle le premier qui a vu, qui est parti à la réunion de Jésus, s'appelle Amour. Voilà, ça c'est le premier cousin de la foi. Il s'appelle Amour. Amour. Donc, Monsieur Amour a vu Jésus agir. Quand il a vu Jésus agir, il a pensé tout de suite au voisin du quartier qui est paralytique. Il a dit, ah, moi j'aime ce type-là. Vraiment, je voudrais qu'il soit guéri. Mais qu'est-ce que je vais faire? Moi seul, je ne peux pas l'amener à la réunion. Alors, il va appeler son... Il s'est rendu compte qu'il a une cousine. Ou bien un cousin. Lui, il a un cousin. Et ce cousin-là, c'est ce qu'on appelle l'action. Puisqu'on dit la foi agit. Donc, l'action. L'action dépendante. L'action déterminante. Il a dit à son cousin, hé, viens, moi je suis l'amour. Mais moi tout seul, je ne peux rien faire. Je veux que tu m'accompagnes. Action a dit, c'est pour faire quoi? Ah, tu connais le voisin du quartier là? Action a dit, oui. Tu sais, il est paralysé. Je suis allé à la réunion de Jésus, j'ai vu des paralytiques guéris. Alors moi, j'aime cet homme-là, je veux qu'il soit guéri. Action a dit, mais oui, mais comme toi, tu es amour, tu t'appelles amour. Moi, j'aime marcher avec l'amour. J'agis avec amour. L'action a dit, mais je te suis. Moi, j'aime ça. J'agis toujours, comme moi j'agis, c'est toujours dans l'amour. Alors, vous voyez, les deux cousins se sont suivis. Et, quand ils sont allés pour prendre le paralytique, ils se sont rendus compte que l'homme est tellement paralytique qu'ils sont incapables à deux de le porter. Alors, Monsieur Action a dit, ah, amour, nous avons vraiment la bonne volonté, mais ce n'est pas suffisant. Toi, tu es amour, moi, je suis action, il faut qu'on fasse appel à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui va nous aider quand on sera découragé, quelqu'un qui sera là pour nous encourager. Ah, Amour dit, mais oui, tu veux parler de notre cousin, persévérance là. Il dit, oui, voilà, c'est la persévérance. La persévérance, oui, car par la foi et la persévérance, nous héritons les promesses. Hébreux 6, 12. Ah, ils ont dit, bon, persévérant, ils sont allés les chercher. Viens, nous avons notre ami le paralytique là. Nous avons notre ami le paralytique. Ils ont dit, le paralytique s'appelle qui? Le paralytique s'appelle, lui il s'appelle Croire. Le paralytique là a pour prénom Croire. Croire, lui il croit. Il y a longtemps il croit, mais il n'est pas guéri. Il croit que Dieu est bon, il croit que Dieu guérit, il n'est pas guéri. Il a fallu que l'amour vienne. Et quand l'amour a dit, Jésus guérit, il a cru. Quand l'action a dit, je vais t'aider, il a cru. Quand persévérance est arrivée, il a dit, je vais t'aider, il a cru. Mais malgré tout ça, il n'est pas guéri. Alors, amour, action et persévérance l'ont ramassé. Ils l'ont amené. Ils sont arrivés devant la foule. Ils ont trouvé qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Il y avait tellement de gens autour de la maison de Jésus qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Ah, persévérance dit non, continuons. C'est pourquoi je suis venu avec vous. Moi, je m'appelle persévérance. Je ne baisse jamais les bras. Mais on va faire. Mais oui, persévérer, c'est bien. Mais il faut trouver autre chose. Persévérer autour de la foule, là. Du cas quand? C'est en ce moment qu'ils ont vu leur quatrième ami, un autre cousin. Voilà. Maintenant, c'est devenu neveu, nièce, tout est mélangé. Mais ça va aller, mon frère. Écoute-moi seulement. La parole de foi. Ils ont dit, ah, mais lui, il leur a dit, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Ah, ouais, on a mis le paralytique là, vraiment, tu vois, amour a eu compassion de lui, il a demandé à action, action a dit oui, lui il agit toujours avec amour, mais sans la persévérance, l'action qui ne persévère pas, ne peut pas aboutir. Alors, à trois, on est arrivé ici, mais on voit, on ne peut pas passer, il y a trop de foule. Ah, la parole de foi a dit, il a commencé à proclamer. Il dit, nous passerons. Rien ne peut nous arrêter. Aucun obstacle ne peut nous arrêter devant nous. Il dit les montagnes qui sont devant nous doivent se transporter. Il dit la seule montagne que nous pouvons transporter. Il a levé les yeux, il a regardé la maison. Il dit c'est le toit. Nous pouvons passer par le toit. Ah, amour, action et persévérance ont crié. Ils ont dit gloire à Dieu. Heureusement que nous avons eu la parole de foi avec nous. Nous avons eu le cousin, notre cousin, la parole de foi. La parole de foi. La parole de foi. Oui, les quatre maintenant ont pris Monsieur Croire. Monsieur Croire, c'est le paralytique. Il dit, tu crois? Il dit, oui, je crois. Je crois en Jésus. Je crois en la Sainte Église. Je crois aux saints apôtres. Mais il dit, non, on te demande si tu crois que tu seras guéri. Ah oui, je crois dans mon cœur. Depuis longtemps, j'attends ça, je crois. Quand Monsieur Parole de foi est monté sur le toit, il a commencé à enlever les je sais pas moi si c'est des tuiles, ou si c'est des tôles, ou si c'est du bois, ou si c'est du foin. Il a enlevé. Il a dit maintenant, allez, Monsieur Amour et Monsieur Persévérance et Monsieur Action, restez en bas. Et Monsieur et Persévérance, tu montes avec moi. Alors ils ont commencé à pousser, à tirer l'homme. Ils sont montés, ils sont montés, ils sont montés. Ils ont enlevé, ils ont tenu l'homme. Je ne sais pas s'ils l'ont attaché ou quoi, je ne sais pas. Et quand ils ont fait un grand trou dans le toit, Jésus lève les yeux et dit, hein, il y a un trou dans le toit. Et qu'est-ce que Jésus voit? Il voit leur foi. On n'a pas dit qu'il a vu le paralytique. Jésus ne voit pas le paralytique. Jésus voit toujours la foi. Ah oui, Jésus, tu vois, je suis malade. Jésus dit, moi, je vois la foi. Je regarde la foi. Je cherche la foi. C'est le paralytique qui descendait. Hein? Mais Jésus, il dit quoi? Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Voyant leur foi. Il n'a pas dit voyant le paralytique. Il dit voyant leur foi. Jésus veut voir votre foi. Vous entendez? Une foi qui n'est pas visible, c'est la croyance. Car la croyance est toujours cachée dans le cœur. La foi qui est visible. Vous entendez? Auditeur, auditrice. Ce message d'aujourd'hui, reprenez-le, lisez-le, reprenez-le, lisez-le. Quand il a vu leur foi, mais Jésus a parlé simplement. Il a dit, c'est à cause de tes péchés que tu es paralytique. Alors, première chose, tes péchés te sont pardonnés. Donc j'enlève l'obstacle qui empêche la guérison. Ce sont tes péchés. Tu as dû pécher quelque part et ça a amené la paralysie. Donc à cause de cela, moi par miséricorde, Jésus, je dis, j'enlève. Et là, les docteurs et tous ces gens-là et tous ces chefs religieux ont dit, le petit là même. Mais on l'admire, mais lui aussi, il est trop orgueilleux. Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Vous allez avoir tout le temps des gens autour de vous comme ça. Jésus dit, ils ont dit dans leur cœur, ils n'ont même pas parlé. Mais Jésus, par le don de la parole de connaissance, a regardé leur cœur. Il a dit, il a simplement répondu. Il a simplement dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Le verset 8, lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, Jésus lui-même, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jésus a le pouvoir de pardonner. C'est pourquoi vous qui nous écoutez, sur la terre, aucune religion n'a le pouvoir de pardonner. Tout le monde s'attend au ciel. On prie, on s'attend au ciel. Mais Jésus n'est pas une religion. Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. Dans le livre de Timothée, il dit que la piété est grande. Dieu vu des anges, Dieu touché, manifesté en chair. C'est ça. C'est pourquoi il a le pouvoir de pardonner. C'est pourquoi quand vous allez à lui et vous criez, Seigneur, tu es mort pour mes péchés, tu as pris mes péchés, tu es ressuscité pour ma justification. Maintenant, je me livre à toi. Il pardonne vos péchés et par son sang, il purifie votre vie. Et votre cœur devient pur. Il vous donne par son Esprit Saint un nouveau cœur. Un esprit nouveau est en vous. Et le Saint-Esprit vient habiter en vous. Alors, vous pouvez lui dire, Seigneur, puisque tu as pris aussi mes maladies à la croix du calvaire, tu vois, je suis couché, souffrant, comme les centeniers romains. Il a dit, mon serviteur est couché à la maison, souffrant. Un centenier romain, qui n'est même pas, mais il croyait, qui n'est pas juif. Il croyait. Il est parti montrer sa foi maintenant. Il a, en croyant, il a marché. Avec sa croyance, il est allé à Jésus. Vous le trouvez là-bas, ce texte-là, vous le trouvez dans Matthieu 8, versets 5 à 13, pour compléter notre étude de ce jour-là. Quand il est arrivé à Jésus, il a dit, mon serviteur est couché à la maison. Et Jésus a dit, j'irai, je le guérirai. Ça suffit. Il a manifesté sa foi. Il a dit, dis seulement un mot. Ce n'est pas la peine que tu viennes chez moi. Dis seulement un mot d'autorité et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis capitaine. Quand j'ordonne, les sergents se mettent au garde à vous. Ils obéissent. Toi, tu es le capitaine de Dieu. Et quand tu parles à la maladie, quand tu parles au démon, quand tu parles à la paralysie, les choses s'en vont. Dis seulement un mot. Jésus a dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une si grande foi. Ça, c'est la foi. Il croyait. C'est sa croyance qui l'a mené à la réunion. Mais beaucoup de gens, de croyants, viennent aux réunions. Mais ils ne sont pas guéris. Pourquoi? Ils croient au commencement, à la fin, ils croient. Quand on dit maintenant, se tendez vos pieds. Il dit, mais si je pouvais tendre mes pieds, je ne viendrais pas ici. Pourquoi Jésus disait aux gens, lève-toi et marche? Pourquoi Pierre a dit à la porte, lève-toi et marche? Vous voyez? Ah oui, mais si je pouvais me lever, je n'ai pas, mais il ne sait pas que j'ai mes maux de rein là, mes maux de dos là, ça fait trop mal. Et puis, il ne comprend même pas ça, il n'a pas compassion. Jésus a dit à ceux qui étaient comme ça, qui avaient des bras secs, il dit, tends ton bras. Si le type s'était arrêté pour réfléchir, raisonner, il n'allait jamais tendre le bras. Parce qu'il sait que par les cinq sens, on ne peut pas tendre les bras. Par la foi, on fait l'effort de tendre le bras et le Saint-Esprit met en mouvement votre bras. La puissance du Saint-Esprit se déclenche par la foi en la parole de Dieu et le miracle s'accomplit. C'est ça qui va vous délivrer. Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Il vous a libéré du pouvoir du péché. Mais si vous n'avez pas foi de proclamer cela, que je ne suis plus esclave du péché, je suis délivré. Si vous continuez à dire, Seigneur, délivre-moi, alors qu'il l'a déjà fait. Romains 6, 14, il dit, le péché n'a pas de pouvoir sur vous. Et vous continuez à dire, Seigneur, mais il ne va rien faire. Il ne va pas répondre à une prière alors qu'il a déjà fait. Il a déjà établi ses faits. Marcher avec ses faits, proclamez-les chaque jour. Parlez et vous verrez la gloire de Dieu. Car Jésus-Christ n'a pas changé. N'oubliez pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il faisait hier, il le fait encore aujourd'hui. Et à cause de cela, Jésus-Christ demeure Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne journée. Amen.
C'était l'heure de la vérité. Une émission du Centre d'évangélisation. Aujourd'hui animée par le pasteur Mamadou Philippe Karambiri. Amis auditrices et auditeurs, pour tout renseignement, contactez-nous à l'adresse suivante. 01 boîte postale 1474 Ouagadougou 01. Téléphone 50 36 43 33. Amis auditrices et auditeurs, frères et sœurs, c'est aussi la fin de cette émission. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.
Ta parole est un réconfort. Alors